RCF. RCF, le béaba du christianisme.
Je vous pardonne tous vos péchés. Cette phrase prononcée par les prêtres dans l'intimité du confessionnal est aussi le titre du livre du journaliste Vincent Montgaillard qui a fait beaucoup réagir ces dernières semaines, livre dans lequel 40 prêtres racontent anonymement le contenu des confessions qui leur sont faites. Les réactions sont vives, certains prêtres crient au scandale car une telle attitude vient fragiliser le lien de confiance qui entoure ce sacrement. Mais que signifie plus précisément le secret de la confession ? S'agit-il d'un secret absolu ou peut-il être révélé dans certains cas ? Que risquent les prêtres qui violent ce secret ? Eh bien, on en parle cette semaine dans le béaba du christianisme avec le père Thomas Poussier, supérieur du séminaire Saint-Luc à Aix-en-Provence. Il vient publier « Le secret de la confession » aux éditions Salvator.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Père Thomas Poussier, bonjour.
Bonjour.
Alors on va essayer de comprendre le sens du secret de la confession dans cette émission, mais peut-être voilà un mot de ce livre dans lequel 40 prêtres racontent des histoires d'adultère, les mensonges et autres confidences faites lors de confessions. L'anonymat semble préservé hein, selon l'auteur de ce livre, mais est-ce qu'ils ont violé le secret de confession comme certains prêtres l'affirment ?
En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ont porté atteinte clairement, directement au lien de confiance entre les prêtres et les pénitents, donc les hommes et les femmes qui viennent confesser leurs péchés et qui s'attendent à ce que tout ce qui est déposé dans le cadre de la confession, et souvent avec douleur, avec parfois des peurs, des craintes, des tremblements, bien, qu'ils attendent à ce que ça soit absolument protégé. Et donc ces prêtres, oui, ils ont violé indirectement le secret de confession, c'est-à-dire effectivement, on ne peut pas remonter jusqu'à en disant bah, c'est telle ou telle personne qui a confessé telle ou telle chose, même s'il y a telle ou telle reprise dans le livre. Il y a des exemples plus précis voilà, de rassemblements de jeunes et qui confesseraient à cette occasion de tel rassemblement de jeunes, plus ou moins tel ou tel péché. Mais il y a une faute de ces prêtres-là. Ils ont péché par manque de prudence, par manque de délicatesse vis-à-vis de ces personnes qui sont venues à eux se confesser en pensant véritablement que le secret demeurerait absolu.
Alors, Père Thomas Poussier, avant d'entrer plus précisément dans le sens hein, et la valeur du secret de confession, c'est l'objet de votre livre. Depuis quand l'Église, justement, a-t-elle institué cette pratique de la confession ?
Vous savez, la pratique de l'Église, elle s'ancre, elle est dans les lignes de vie qu'a tracé le Christ à travers de son ministère. Donc, la pratique de l'Eucharistie, par exemple, elle s'ancre dans le geste du Christ le jeudi saint au soir, qui dit « Faites cela en mémoire de moi ». Et puis, la pratique de l'Église, donc du pardon des péchés, elle s'ancre dans la pratique presque quotidienne, si on en croit les Évangiles, de Jésus de pardonner les péchés aux hommes et aux femmes qui lui demandaient cela. Et donc, après, la pratique de la confession.
Vous citez souvent. Le fils prodigue, la femme adultère dans votre livre.
Oui, c'est clair, c'est indissociable de la figure du Christ et donc de la figure de l'Église. C'est d'offrir le pardon aux hommes. C'est pour cela que le Christ s'est fait homme et qu'il est vraiment venu nous sauver du mal. Et c'est pour ça qu'il nous offre son pardon et sa miséricorde. Et donc après, oui, au cours de l'histoire, la forme de la confession a pu évoluer, mais ça fait depuis le 5e, 6e siècle à peu près qu'on connaît cette forme de confession qu'on vit encore aujourd'hui.
Alors, dans votre livre, vous expliquez aussi que le secret professionnel, hein, qui est aussi une autre forme de secret, trouve son origine dans le secret de la confession, s'est inspiré du secret de la confession ?
Oui, alors si on reprend le premier secret professionnel qui est protégé, c'est le secret médical, donc qui existe avec le serment d'Hippocrate, donc ça c'est avant l'ère chrétienne, mais il n'a jamais été protégé comme on peut imaginer qu'un secret professionnel est protégé. On a par exemple toutes les notices du médecin de Louis XIV, enfin ça posait aucun problème à cette époque-là encore de raconter les péripéties de santé des uns et des autres. Mais le secret professionnel, effectivement, le premier secret professionnel à être protégé, c'est le secret des avocats, et les premiers avocats étaient des clercs, des prêtres, et donc c'est véritablement dans la même lignée que la pratique de la confession avec le secret que s'est ancré le secret professionnel, et ensuite le secret médical a été redécouvert, redéployé dans la même lignée que le secret professionnel de l'avocat, par exemple.
Alors, pour autant, secret professionnel et secret de confession sont un petit peu différents. C'est quoi la différence fondamentale entre ces deux secrets ?
Oui, c'est vrai, quand on entend secret professionnel, ça sonne un peu froid, ça sonne un peu distant, même si tout de suite, dès qu'on rend les exemples, on comprend que voilà, c'est pas froid, le secret professionnel, parce qu'on pense au secret médical ou au secret avec un avocat. Et c'est vrai qu'on peut parler de secret professionnel, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois vraiment le secret de la confession, d'un point de vue juridique, étatique, c'est de préserver le secret du ministre des cultes. Et donc de permettre aux personnes de vivre leur foi en toute liberté. Donc c'est une des modalités de la liberté religieuse.
Et le secret professionnel aussi, c'est une manière de protéger sa vie privée aussi. Donc c'est une forme aussi de préservation de sa liberté, en quelque sorte.
Absolument. Et c'est là où on touche à quelque chose de très important. C'est-à-dire que le secret professionnel, il ne protège pas le professionnel. Le secret protège la personne qui vient déposer. Le secret professionnel d'un avocat, il préserve pas d'abord l'avocat, il préserve la personne qui a demandé les services d'un avocat, il préserve le secret, préserve le patient dans le cas du secret médical, et puis le secret de confession, il préserve le pénitent. Et donc le secret professionnel, il n'est pas là pour donner une chape de protection autour du prêtre dans le sacrement de confession. Il est là pour protéger le retour que vit à l'intérieur de lui-même le pénitent qui se rapproche du Père des Miséricordes. Vous parliez tout à l'heure du Fils prodigue. Enfin, c'est vraiment ce mouvement-là qui est vécu à chaque confession. Le pénitent s'approche humble et pauvre et pécheur devant son Père. Il lui dit « J'ai péché contre toi, voilà, donne-moi ton pardon ». Et le secret de confession, il est comme le manteau en fait, du Père des Miséricordes. Il vient recouvrir tout ce qu'a pu le faire ce fils perdu, et puis il lui offre son pardon, sa miséricorde, et une nouvelle vie s'offre à lui.
Alors, la différence entre le secret professionnel et le secret de confession, c'est que parfois, dans certains cas, on peut finalement dévoiler ce secret professionnel, ce qui n'est pas le cas pour le secret de confession.
Absolument, oui. Il y a quelque chose de très beau dans le côté absolu du secret de confession. Moi, c'est vraiment ce qui m'a attiré déjà pour étudier ce secret. Ça fait à peu près 6 années que j'étudie le secret de confession. Et ce qui m'a vraiment intrigué, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas d'exception à ce secret, alors que tous les autres secrets comportent une exception. C'est une exception aux exceptions, parce que l'Église, elle reconnaît depuis des siècles qu'il y a véritablement quelque chose d'extrêmement intime qui se joue à cet endroit. Voilà. Et puisque c'est extrêmement intime, puisque c'est un dévoilement de la conscience, puisqu'on dit tout ce qu'on a pu commettre de mauvais, tout ce à côté de quoi nous sommes passés aussi au niveau de la charité, eh bien, l'Église elle a reconnu que ce dévoilement était si intime qu'en fait, il fallait absolument le protéger de manière absolue. Et puis, il y a cette réalité dans notre foi chrétienne, c'est que la miséricorde de Dieu est absolue. Dieu a voulu que tous les hommes soient sauvés, c'est ce que dit saint Paul. Dieu a voulu que tous les hommes soient sauvés, et donc l'Église, elle met en œuvre cette volonté de Dieu de sauver tous les hommes en donnant un secret absolu, à miséricorde absolue, secret absolu.
RCF, Pauline de Torsiac.
Cette semaine, dans le béaba du christianisme, on parle du secret de confession. Quel sens revêt-il? Ce secret est absolu. Pourquoi n'y a-t-il pas un risque de dérive? Secret, silence, quelle nuance? On en parle avec vous, Père Thomas Poussier. Vous êtes le supérieur du séminaire Saint-Luc à Aix-en-Provence. Vous venez de publier Le secret de confession. Ça tombe bien, aux éditions Salvator. La confession, c'est un sacrement. Il faut quand même le préciser. Et le secret, une condition de ce sacrement, Père Thomas Poussier?
Oui, en fait, on peut dire que le secret permet la confession. C'est vraiment ce qui va conditionner intérieurement. Le fait que le pénitent sait qu'il ne sera pas, qu'il rien ne sera dévoilé, lui permet cet exercice qui est un peu difficile, je disais tout à l'heure, de l'aveu. Et donc le fait que le secret nous place, si on peut le dire de manière un peu rapide, dans de bonnes conditions intérieures pour pouvoir vivre ce chemin vers Dieu.
Alors la confession, vous l'avez dit, c'est un secret absolu. Expliquez-nous quand même plus précisément pourquoi ce secret doit être absolu. Vous dites dans votre livre, il marque la profonde attention de l'Église à la fragilité du cœur de l'homme qui aspire à rejoindre le Père à condition que ce retour se fasse dans la discrétion la plus totale, sans livrer son intimité blessée au regard de l'autre. En fait, on n'est pas face à un prêtre, on est face à Dieu.
En fait, c'est ce qui est marqué dans la Somme théologique, donc c'est du XIIIe siècle. C'est le prêtre, il écoute pas les confessions en tant qu'homme, il les écoute en tant que Dieu. Alors, il s'agit pas pour le prêtre de se méprendre, hein, il ne devient pas Dieu d'un coup comme ça, mais il est l'instrument à ce moment-là de la miséricorde de Dieu dans le cadre de la confession. Et véritablement, cet exercice d'écoute, il est à la fois bien avec nos oreilles humaines et notre cœur humain de prêtre, mais en même temps, on sait bien que tout ce qui nous est dit n'est pas adressé à nous prêtres, mais qu'il est adressé directement à Dieu. Et donc, ce chemin que vit la personne dans la pénitence et dans une volonté de vivre et de recevoir la réconciliation, eh bien, le prêtre en est le témoin. Alors, le témoin, souvent très ému, parce qu'il y a un profond désir de vérité chez les personnes qui se confessent. Il y a une volonté de vivre mieux, de mieux aimer, de mieux s'aimer soi-même, de mieux aimer les autres, de mieux aimer le Seigneur. Et donc, le prêtre, il est celui qui contemple en fait ce chemin que vit la personne avec son Dieu auquel elle croit et avec tout ce péché qu'elle regrette et dont elle veut se défaire.
Il y a même une attitude du prêtre, vous le dites également dans votre livre, il doit fermer les yeux, enfin, il est un peu en retrait, une sorte d'effacement en quelque sorte.
Oui, c'est vrai que cet effacement, ça permet souvent aux pénitents de mieux vivre, là encore, ça conditionne. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait un confessionnal, le fait qu'il y ait une distance, voilà, que les regards ne se croisent pas, en tout cas la plupart du temps, eh bien ça permet à la personne d'être en vérité face à elle-même. Et c'est bien rare, malheureusement, dans notre vie aujourd'hui, d'arriver à être face à soi-même, d'être dans une vérité, ou en tout cas dans une recherche de vérité absolue. Et la confession permet cela.
Le secret absolu de la confession n'est pas une option du sacrement, il en est le cœur, c'est ce que vous dites. Mettre une limite au secret de confession reviendrait à limiter la miséricorde, vous le disiez tout à l'heure, l'amour de Dieu pour chaque homme, c'est ça?
Oui, c'est ça. Le fait que Jésus a toujours marqué une prédilection pour les pécheurs, pour les faibles, pour ceux qui sont malades, ça nous donne véritablement cette ligne de vie à suivre pour l'Église, en particulier pour les prêtres qui ont cette mission eh bien, de donner, d'absoudre les péchés, mais au nom de Dieu. Et c'est la formule dit bien, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Et c'est véritablement en se mettant dans le mouvement de miséricorde absolue de Dieu que le prêtre peut donner ce pardon. Et il y a aussi la reconnaissance en disant qu'il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. On reconnaît véritablement que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans ce sacrement. C'est Dieu qui nous inspire, qui inspire même le pénitent, en fait, c'est un temps de prière aussi. C'est Dieu qui inspire le pénitent de confesser tel ou tel péché. Peut-être ça fait un moment qu'il traînait ça dans sa vie, et Dieu lui donne la grâce, donne ce surcroît de dynamisme intérieur pour pouvoir déposer ce qui était très lourd en lui. Et c'est pas rare que dans les confessions, on entende que, ben voilà, ça je l'avais jamais confessé, ça fait 5 ans, 10 ans que je le portais, etc. Et voilà, là encore, enfin, je reviens à ça, mais le prêtre, il est contemplatif de cela. C'est pour ça qu'il y a un grand besoin de chasteté de la part du prêtre. On parlait tout à l'heure de l'attitude corporelle, mais c'est véritablement l'attitude corporelle du prêtre, elle doit signifier aussi quelque chose de la chasteté de Dieu vis-à-vis des hommes. Dieu met pas la main sur les hommes, il les laisse venir librement à lui, y compris si il passe par des méandres et par des péchés. Mais le prêtre, il doit s'inscrire aussi dans cette chasteté de Dieu vis-à-vis de l'homme.
Alors parfois, vous l'avez dit, ces secrets sont lourds, très lourds. Vous pouvez entendre en quelque sorte l'inentendable. Et vous le dites, l'absence d'exception au secret de confession peut engendrer dans l'opinion le sentiment d'impunité offerte à un criminel. Vous abordez d'ailleurs avec beaucoup de lucidité la question de la pédocriminalité qui a entaché l'Église. Père Thomas Poussier, jusqu'où justement ce caractère absolu du secret de la confession est-il entendable en quelque sorte ?
Oui, effectivement, quand on entend les mots de pédocriminalité, de viol, de maltraitance sur les personnes les plus faibles, on se dit mais enfin, il n'y a pas de justice. On se dit c'est pas normal. On se dit qu'il y a un problème avec ce côté absolu du secret. Alors il faut entendre ça, il faut entendre vraiment cette incompréhension, et en même temps il faut tenir ferme le fait que la miséricorde de Dieu, elle est pour tous. Pour tous ceux qui le désirent, en tout cas, la seule limite de la miséricorde, c'est la liberté de l'homme qui veut ou pas s'y ouvrir. Alors, évidemment, on a l'impression, effectivement, et surtout si on pense pédocriminalité dans l'Église, qu'on a l'impression que les prêtres lavent leur linge entre eux et cachés, et puis après on repart à autre chose, et puis on fait comme si rien ne s'était passé. Or, c'est pas du tout de cet ordre-là.
C'est vrai que ça pourrait paraître comme une sorte d'angle mort, quoi, mais...
Exactement. Alors, il y a eu des angles morts dans les pratiques de l'Église, et ça, il ne faut pas se cacher les yeux. Mais la confession, en fait, elle repose sur le fait qu'il y a une contrition, un regret de ces péchés. Or, ce qu'on voit chez les pédocriminels, qu'ils soient prêtres ou pas prêtres, c'est qu'il y a l'immense majorité, mais la quasi-totalité, n'arrive pas à reconnaître qu'elle a pu faire du mal à l'autre personne, qu'elle a pu parfois tuer physiquement psychiquement des personnes. Et donc, avant qu'un pédocriminel vienne se confesser, il y a un chemin énorme. Et en fait, si on voyait les choses uniquement au travers de la confession, effectivement, là, il y aurait un problème par rapport à la justice. Mais ce qu'on peut entendre, c'est qu'une personne perverse, puisque c'est souvent la quasi-totalité aussi des pédocriminels sont de ce type-là, une personne perverse qui reconnaît le mal qu'elle a pu faire, eh bien, elle est dans une première étape ou dans une des étapes qui va la conduire à faire la vérité sur toute sa vie. Et la vérité, elle ne se limitera pas juste au cadre du confessionnal. Et donc, c'est pour ça qu'on peut préserver à la fois le secret absolu de la confession pour ce qui est dit dans la confession, et en même temps reconnaître qu'il y a une possibilité et même une nécessité de justice au-delà de la confession.
Tout ne se passe pas en confession, c'est ce que vous essayez de dire dans votre livre. Et vous distinguez aussi les secrets des silences, intéressant, je trouve.
Oui, parce que si on reste encore dans l'exemple du pédocriminel, là, il y a énormément de témoignages dans lesquels, quel que soit le type d'agresseur d'ailleurs, mais qui dit à la personne « ce sera notre petit secret, ce sera entre nous ». Et en fait, c'est un scandale qui se rajoute à l'autre scandale de l'abus qui vient d'être commis, c'est-à-dire que en disant « ce sera notre petit secret », on a l'impression qu'il y a comme une connivence, comme une complicité, c'est quelque chose entre nous, comme s'il y avait une relation, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la vie entre la personne qui vient d'agresser et puis sa victime. Alors c'est un mensonge éhonté, quoi. Il n'y a pas de relation. Un vrai secret, c'est une relation. Un silence, par contre, c'est bien ça. En fait, on impose le silence en disant voilà, ce sera notre petit secret. C'est voilà, on crée une fausse complicité, et donc c'est vraiment important de distinguer justement ce qui est de l'ordre du silence et ce qui est donc là à ce moment-là plus de l'ordre de la mort et du vrai secret qui est de l'ordre de la vie qui permet la relation.
Alors, Père Thomas Poussier, justement, quelles sont les pistes pour rendre justice malgré cette sauvegarde absolue du secret de confession? Il y a quand même des moyens de rendre justice, peut-être rassurer ceux qui craindraient que que des choses horribles se passent en confession.
Oui, absolument. Alors, effectivement, on entend parfois des choses terribles, des choses horribles, des choses lourdes en confession. Mais la vie d'un homme, d'un chrétien, enfin d'une personne chrétienne, ne se limite pas à la confession. Il y a d'autres endroits où parler, d'autres endroits où elle peut effectivement être écoutée. Et là, pour le coup, dans lequel il pourrait y avoir, si les conditions sont réunies, mais il pourrait y avoir effectivement une levée du secret, donc toujours hors confession. Et puis aussi, il faut reconnaître, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le fait qu'il y a plusieurs étapes, qu'il y a un dévoilement qui se fait, il y a d'autres instances pour accompagner des personnes vers la justice, vers la police, vers les instances aussi ecclésiales, si c'est nécessaire. Et donc, en fait, tout ne se joue pas autour de la confession. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi insister là-dessus, c'est-à-dire dans mon livre, pour dire qu'effectivement, il y a le secret de confession qui est absolu et il faut qu'il le demeure. Parce que c'est pas une règle humaine, c'est une règle qui vient de Dieu, mais il y a toutes ces autres instances dans lesquelles la justice peut être rendue. Et donc il faut tenir les deux. Alors ça ne crée pas un angle mort dans la vie de l'Église ou dans la vie des hommes, mais ça crée un lieu dans lequel toute personne, quelle qu'elle soit, eh bien, peut venir en vérité.
RCF, le béaba du christianisme.
Le secret de la confession est un secret absolu que le confesseur ne peut en aucun cas dévoiler. C'est ce que vous expliquez très bien, Père Thomas Poussier, dans le livre que vous venez de publier, Le secret de confession, c'est aux éditions Salvator. Vous êtes aussi le supérieur du séminaire Saint-Luc à Aix-en-Provence. Alors justement, est-ce que c'est un sujet auquel on se prépare dans les séminaires ?
Oui, alors on se prépare effectivement plutôt dans les dernières années à la pratique du sacrement de confession, même si évidemment les séminaristes se confessent très régulièrement, hein, donc c'est aussi une manière pour eux de commencer à vivre cette intimité avec la pratique du sacrement de confession. Je dirais qu'on s'y prépare surtout de manière très large en travaillant une posture ajustée du prêtre, une posture chaste, qui sait être bien présent aux personnes qu'il rencontre, quel que soit le cadre, que ce soit à la sortie de l'église, à la sortie de la messe, dans le cadre d'une discussion chez les gens qui pourraient nous inviter, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement spirituel ou dans le cas plus précis du confessionnal. Donc en fait, c'est une préparation générale à ce qu'on appelle la chasteté du prêtre.
Père Thomas Poussier, il faut être capable d'entendre des choses difficiles, de répondre. C'est un peu des psychologues, des médecins des âmes. Est-ce que tout le monde a cette capacité d'écoute, de discernement ? Est-ce qu'on se prépare à ça aussi ?
C'est quelque chose qu'on travaille. Hein, et justement, la bonne écoute, l'écoute empathique, nous apprend effectivement qu'on n'a pas toujours des réponses aux questions. Voilà, là encore, c'est une manière de manifester la chasteté. On n'a pas la réponse automatique qui viendrait combler la personne. Voilà, même Jésus, dans sa pratique, ne répond pas toujours aux questions. Il laisse la personne aussi cheminer. Donc, il faut faire attention à cette tentation de vouloir toujours avoir une réponse et une solution immédiate à tous les problèmes des gens. Donc, il s'agit déjà d'accueillir ce qu'ils sont avec leurs souffrances, leurs questions, etc. Alors, les prêtres ne sont pas des psychologues. Il y a certains prêtres qui sont psychologues, mais les médecins des âmes, oui, l'image est un peu plus juste. Mais voilà, bon, justement, au séminaire, tout au long du séminaire, depuis l'année propédeutique jusqu'à l'année diaconale, eh bien, il y a des formations avec des vrais psychologues. Et donc, par exemple, au séminaire Saint-Luc d'Aix-en-Provence, eh bien, il y a une femme qui est psychologue, il y a un prêtre qui est psychologue et psychanalyste, et l'un et l'autre, et parfois les deux ensemble, font des formations à ce qu'est la psychologie, à tout ce que sont les ressorts psychologiques d'un être, pour justement bien distinguer ce qu'est l'ordre du psychologique du spirituel, pour pas s'aventurer sur un terrain trop psychologique, parce que c'est pas la formation initiale d'un prêtre, et puis en même temps pour écouter ce que toute la dimension, toute la personne avec ce qu'elle est, et on vient en confession avec aussi tout ce qui est notre psychologie. Donc c'est important aussi que les prêtres soient formés à ça.
Alors, le secret de confession, c'est un secret inviolable. Le prêtre s'y engage le jour de son ordination. Comment ça se passe ?
Alors, il n'y a pas de parole précise sur le secret de confession. En tout cas, le prêtre s'engage à être véritablement un serviteur de la foi de l'Église, d'être un serviteur dans l'obéissance de l'Église. Et donc, la pratique du secret de confession, effectivement, et la pratique des sacrements, elle s'ancre dans l'obéissance d'un prêtre à l'Église qu'il va servir. Donc, il ne peut pas s'en détacher par lui-même, parce que ce ne serait pas juste par rapport à l'obéissance. Et puis surtout aussi, parce que je disais tout à l'heure, c'est parce que le secret ne lui appartient pas, le secret appartient à Dieu. Et donc, le prêtre, le jour de son ordination, s'engage à rentrer dans cette dynamique miséricordieuse de l'Église, qui est de vouloir offrir le pardon à tous les hommes. Et donc, voilà, il se fait l'humble serviteur de cela.
Qu'est-ce qu'il risque s'il viole ce secret ?
Alors, le droit canonique est très clair, c'est l'excommunication, la tessentessie, c'est-à-dire immédiate. Et après, il y a un procès qui peut être fait s'il y a une violation directe, c'est-à-dire en disant, telle personne m'a dit telle chose à telle occasion. Voilà, donc la sanction est extrêmement lourde pour un prêtre.
Sur un plan canonique, pas sur un plan civil, on est d'accord.
Oui, alors après, une personne pourrait aussi se retourner contre un prêtre qui, ça s'est passé dans le passé, pas par rapport à une confession, mais dans d'autres domaines de la vie pastorale, où un prêtre avait pu être indiscret. Voilà, et donc, il y a pu avoir des condamnations par la justice française là-dessus, oui.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce mythe qui entoure la confession, le secret de confession ? C'est vrai qu'on s'imagine beaucoup de choses dans un confessionnal.
Oui, c'est vrai que c'est un lieu un peu mythique, si on peut dire. Et c'est tellement mythique, mais en même temps, c'est tellement près. Donc, c'est un côté un peu paradoxal. Et puis, on touche à quelque chose que l'homme a envie d'entendre, c'est-à-dire qu'il est aimé absolument, en fait, sans limite. Et ça, c'est quelque chose que toute personne porte, en fait, qu'elle soit d'ailleurs croyante ou pas croyante, mais de savoir qu'elle est aimée d'un amour sans limite. Et le secret de confession va être la manifestation visible, si on peut dire, c'est un peu paradoxal de le dire comme ça, mais le secret de confession va être la manifestation visible de cet amour de Dieu pour chacun, et qui est un amour véritablement sans limite. Dieu nous aime sans limite, et donc le secret de confession a ce côté un peu mythique, a un côté quelque chose de très, très mystérieux, parce que justement on touche à quelque chose que les hommes portent en eux au fond de leur cœur, c'est véritablement d'être aimés pour ce qu'ils sont, au-delà de leurs fautes, au-delà de leurs péchés, et de pouvoir continuer un chemin de vie, même si par le passé ils ont pu ne pas avoir les bonnes attitudes. Voilà, donc c'est véritablement de l'ordre de la vie. La confession, avant d'être un exercice de pénitence, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus vivant, mieux vivant.
Père Thomas Poussier, merci beaucoup. Je renvoie les auditeurs évidemment à votre livre très éclairant, Le secret de confession, c'est aux éditions Salvator. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. À bientôt.